Et la question que nous vous posions hier pour aujourd'hui était: le monde réalise-t-il selon vous, oui ou non, le cynisme du Hamas dans les mises en scène de la libération d'otages? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs de cette question?
Ah ben, c'est clair, Didier, il pense que le monde ne réalise pas du tout le cynisme du Hamas. On est à 94% de non sur Facebook, 86% de non sur Insta et 80% de non sur X. Donc, c'est clair, a priori, il ne le réalise pas. En tout cas, c'est ce que pensent nos auditeurs. On va demander son avis à notre invité, Raphaël Jérusalemi. Bonjour.
Bonjour.
Ancien officier des renseignements militaires de Tsahal, Raphaël, qu'en pensez-vous? Est-ce que le monde réalise le cynisme du Hamas avec ses mises en scène dans les libérations des otages?
Je pense que oui. Donc, à contre-courant du sondage, je pense qu'une personne normale, face aux images de mise en scène de libération des otages, ne peut que s'inquiéter du degré de violence, de lâcheté, des cérémonies qui sont organisées avec des centaines voire des milliers d'hommes, car il n'y a pas de femmes, face à trois ou quatre jeunes femmes sans défense. L'atmosphère qui règne lors de ces cérémonies est une atmosphère de violence et de haine qui ne peut vraiment pas attirer la sympathie, à mon avis, sauf si on est antisémite ou complètement idiot. Et donc, je pense que le résultat est contre-productif, au point que la dernière mise en scène a été un échec total, puisque les quatre jeunes otages ont refusé cette mise en scène et ont réussi à avoir le courage, alors que ça pouvait leur en coûter, de ne pas parler. Par exemple, le Hamas avait préparé des discours à leur intention qu'ils ont refusé de prononcer. Ils ont déclaré à l'avance qu'elles lèveraient les mains en signe de victoire, ce qu'elles ont fait, quatre jeunes femmes seules et sans défense, au milieu d'une foule excitée et complètement cinglée en fin de compte. Donc je ne vois pas très bien comment on peut croire que je pense qu'il y a beaucoup de monde. Par contre, aujourd'hui, devant les images du retour des Palestiniens du sud vers le nord, devant cet immense exode avec des images assez impressionnantes, là peut-être il y a une sympathie beaucoup plus grande pour Gaza, le peuple gazaoui, en voyant ces gens-là avec leurs sacs, leurs valises rentrer chez eux. Je vois très très mal une sympathie pour les hommes en armes du Hamas lors des mises en scène de libération d'otages.
Alors, effectivement, il y a aussi une stratégie qu'on a vue à l'œuvre, Raphaël Jérusalemi, celle de permettre aux otages de se doucher juste avant leur libération et de leur donner à manger un peu plus que d'ordinaire pour qu'elles aient l'air en moins mauvaise santé, en moins mauvais état quand on les libère. C'est vraiment cynique, là encore, de la part du Hamas.
Oui, on a parlé même peut-être de les droguer. Il y a aussi des menaces. On leur dit que si, lors des interviews, même maintenant, elles vont dire des choses qui vont pas plaire au Hamas, les otages qui sont encore détenus à Gaza en pâtiront. Donc on les menace de tabasser les otages qui restent si elles, dans leurs interviews aujourd'hui, elles disent certaines choses à propos du Hamas. Bon, aujourd'hui, tout le monde commence à découvrir très très rapidement les atrocités qu'ils ont subies. On n'ose pas encore trop rentrer dans les détails, mais elles ont été extrêmement maltraitées. On voit à quel point ces femmes sont courageuses. On voit aussi à quel point elles n'arrivent plus à se séparer les unes des autres, car elles ont vécu des choses que nous ne pouvons pas comprendre, que nous ne pouvons pas expliquer, un petit peu comme les survivants de la Shoah.
Oui, et justement, hier soir, il y avait une rencontre qui a été partagée de manière très virale sur Instagram entre Sami Stegman, qui est survivant de la Shoah, et Yoni Diller, qui est survivant du 7 octobre. Et on était frappés, Raphaël Jérusalemi, vraiment des points communs dans leur discours sur le traumatisme d'un côté et la résilience de comment ils ont survécu de l'autre.
Oui, c'est l'espoir qui nous reste, effectivement. Comment l'être humain arrive normalement à s'en sortir. La comparaison vaut aussi pour le Hamas et les nazis. faut aussi pour les manifestants qu'on voit à Bruxelles librement et les pro-nazis de l'époque de Hitler. Et évidemment, le gouvernement actuel en Belgique, infesté de nazis islamistes.
Vous avez du mal à tenir sans la vanne immobilière
de l'époque.
C'est vrai que hier, c'était vraiment particulier comme ambiance pour cette journée du 80e anniversaire de la libération d'Auschwitz, avec la période qu'on vit actuellement et cette annonce qui, évidemment, en termes de timing, était très compliquée également, de la liste donnée par le Hamas à Israël, sur lequel il y a donc 8 morts sur les otages qui restent à libérer dans cette première phase de l'accord. Seules les familles, pour l'instant, ont été updatées par l'État d'Israël. La liste n'est pas encore officielle, Raphaël.
Exactement. Il faut se méfier d'ailleurs qu'il circule beaucoup de fausses informations au sujet de cette liste. Au départ, d'ailleurs, une autre comparaison avec le nazisme et la Shoah, la liste n'était pas nominale, on donnait que des numéros. Ça rappelle aussi cette période-là. Et donc, de nouveau, une tentative pathétique, si on appelle ça cynique, mais moi je trouve que c'est pathétique, du Hamas de jouer avec les nerfs des Israéliens et des Juifs de par le monde. C'est pathétique dans la mesure où ça ne les avance à rien. C'est juste pour enquiquiner, dirons-nous. Mais nous allons devoir montrer notre sang-froid. Et cette fois-ci, le gouvernement israélien a montré du sang-froid en refusant l'ouverture de Netzarim tant qu'il n'avait pas certaines garanties de libération de certains otages et cette liste. Le gouvernement israélien a tenu bon. C'est une guerre des nerfs, effectivement, qui est en train de se jouer.
Alors, justement, pour finir là-dessus, Raphaël Jérusalemi, cette guerre des nerfs, on voit bien le retour des habitants de Gaza est tout de même une victoire pour le Hamas, puisque de nouveau, ça leur donne l'occasion d'avoir l'air, d'avoir le contrôle dans la bande de Gaza, même si on comprend bien que c'était très important d'avoir 3 otages supplémentaires, en plus du calendrier qui était déjà prévu.
Alors, il y aura un certain travail à faire, si besoin, si les combats reprennent, dans la mesure où effectivement ce cessez-le-feu est à l'avantage du Hamas sur le plan tactique. Et d'un autre côté, la situation n'est plus la même. Le temps que le Hamas se réorganise, se redéploie, se restructure, va quand même prendre quelques semaines ou mois. Et entre-temps, Tzal a fait tout le nécessaire pour se réserver des corridors opérationnels par lesquels entrer et sortir rapidement pour intervenir de façon efficace, des moyens de surveillance de toutes sortes, électroniques et autres, et ces informateurs habituels qui vont permettre de suivre beaucoup mieux les déploiements du Hamas et le cas échéant donc d'intervenir. Et je pense que le Hamas a très bien compris que à la prochaine incartade, le prix à payer serait encore plus lourd et l'offensive de Tzal encore plus violente. Je pense que nous devons maintenant considérer avec de moins en moins de scepticisme le fait que les gens de Gaza vont être évacués vers la Jordanie, vers l'Égypte. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes Gazaouis qui ne rêvent que de ça, que de quitter Gaza.
Eh bien, on en rediscutera peut-être avec vous, Raphaël Jérusalemi, ancien officier des renseignements militaires de Tzal. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée à vous.
Bonne journée.
Bonne journée, Raphaël, avec Raphaël Jérusalemi, auteur des 2 derniers manuels bleus contre l'antisémitisme et également de son dernier ouvrage, In Absentia.